Écoutez, écoutez, je reçois des informations maintenant, écoutez.
Le feuilleton va recommencer pour quelques épisodes, capitaine.
Nous ne sommes pas des robots, Sébastien, mais des êtres vivants.
Voilà le pied d'Armstrong. Au centre et en bas de votre écran. Et il marche maintenant.
On peut dire aujourd'hui que la science-fiction est bel et bien partout.
Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique?
Est-ce vraiment si invraisemblable?
Si mes calculs sont exacts, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Bonjour à toutes et à toutes, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animée et produit par L'œil de Chéri. Si vous nous suivez depuis un moment, vous savez que nous aimons diversifier nos épisodes et vous présenter des thématiques inédites et aussi de nouveaux invités. On va aujourd'hui vous parler de Transmedia Storytelling. Alors, ce concept, théorisé par l'universitaire Henry Jenkins en 2003, évoque comment un univers de fiction peut se retrouver sur plusieurs médias. Prenons un exemple avec la franchise Star Wars. La franchise de George Lucas se retrouve au cinéma, en série TV, en BD et en roman. Bref, l'univers de la Guerre des Étoiles continue de s'étendre depuis bientôt 50 ans avec de nouveaux personnages, de nouvelles planètes, de nouvelles aventures. Cette émission n'analysera, va pas forcément analyser un titre en particulier, mais reviendra sur la stratégie éditorial d'un grand titre de l'industrie vidéoludique. On espère vous donner une autre facette du monde des pixels. On va parler d'une licence mythique quand on aime les jeux vidéo, bien sûr. Le studio français Ubisoft a sorti il y a quelques semaines Assassin's Creed Mirage. Le jeu d'action et d'aventure célèbre son 12e épisode. Pour ceux qui ne connaissent pas cet univers qui mêle par moments anticipation et surtout le voyage dans le temps, Assassin's Creed narre le combat entre la faction des assassins et la faction des templiers à travers l'histoire. Le dernier épisode se situe à Bagdad en 831, en plein âge d'or de l'islam. On va écouter un extrait de la bande-annonce et on revient tout de suite avec notre invité.
Bassim Ibn Isra, es-tu prêt à renoncer à celui que tu pensais être ?
Je le suis.
Prêt à sacrifier tout ce qui t'était cher ?
Je le suis.
Es-tu prêt à quitter ton ancienne vie et à emprunter le chemin de l'ombre ?
Je le suis.
Emar Azaizia, bonjour à vous.
Bonjour Lloyd.
Merci de nous répondre. Vous êtes à Montréal en ce moment. Il fait jour chez vous tandis qu'il fait nuit chez moi. C'est ce que je peux voir derrière mon écran. Vous êtes Transmedia and Business Development Director pour Ubisoft. Comment on traduit ça en français ?
Avec difficulté parce que c'est un titre très long. On traduit simplement ça par Directeur Transmedia et Développement d'affaires. Pour faire simple, et donc c'est deux facettes du métier que j'exerce.
Quand nous nous sommes rencontrés en 2017, vous vous occupiez déjà de la marque Assassin's Creed. On va un peu revenir sur la stratégie transmédia de cette saga. Est-ce que vous pouvez un peu nous rappeler et nous parler de comment tout ça a commencé ? Pour rappel, c'était dès le 2e épisode de la série, Ubisoft s'est essayé à la construction d'un univers étendu qui permettait à la fois de nourrir les fans et d'élargir la licence au plus grand nombre.
C'est exactement ça en termes de rapport dans le temps et de stratégie. Après le premier opus, on a réalisé qu'on tenait là une fantaisie assez universelle qui pouvait se développer bien au-delà du médium du jeu vidéo. On avait quelque chose de l'ordre de à la fois de l'intime et du généraliste, qui était notre rapport à l'histoire et le rapport à l'histoire personnelle, puisque le propre de cette fantaisie était de proposer une sorte de tourisme virtuel, puisque à l'aide d'une machine qui existe dans notre univers, on peut voyager au travers de l'ADN des gens et remonter leur passé, vivre la vie que leurs ancêtres ont vécue. C'est évidemment différent du voyage dans le temps qui permet d'altérer ou de changer la temporalité. Ici, on peut se contenter seulement de revivre. Donc on parle vraiment plus de tourisme virtuel en l'occurrence. Et quand on s'est rendu compte de la force de cette proposition, de la manière avec laquelle ça résonnait avec tout le monde, on a vite eu envie de pousser la barre et de proposer quelque chose de plus que du jeu vidéo. Et donc, Assassin's Creed 2 avait, côté très unique et parfois oublié par les gens, de proposer une série en live action qui s'appelait Assassin's Creed Lineage, qui est disponible partout gratuitement sur Internet, et qui, avec, à l'aide de vrais acteurs qui ont prêté leur likeness, donc leur visage et leur look au personnage du jeu vidéo, servait d'introduction au jeu. Et en parallèle, on a commencé en fait nos différentes collaborations avec le monde du comic books, du graphic novel, de la romanisation des scripts de jeux vidéo. Et donc c'est vraiment les premiers jalons sur lesquels on a beaucoup appris sur la façon de gérer un univers transmédiatique.
Alors Assassin's Creed est né en 2007, c'est un jeu qui a beaucoup marqué les esprits puisqu'il accompagnait la sortie de la PS3 à l'époque. Le jeu est devenu de plus en plus populaire, il y a un mélange hyper intéressant d'action et surtout d'histoire, et de l'histoire avec un grand H et aussi avec un petit H. À chaque fois, le joueur va découvrir un monde différent et donc une période de l'histoire très très différente. Et vous êtes allé de l'Antiquité jusqu'au 19e siècle. Concrètement, pour les auditeurs qui sont avec nous, cela ressemble à quoi les réunions avec les équipes du jeu vidéo qu'on souhaite proposer d'autres contenus sur le jeu? Je sais que pour les gens, ça reste assez nébuleux, l'organisation d'un studio de jeux vidéo. Comment ça se passe concrètement si vous, Aymar, vous voulez lancer, un comic sur Assassin's Creed Mirage qui vient tout juste de sortir?
Ça a beaucoup effectivement changé et le rapport avec les équipes de production des jeux dépend effectivement du sujet qu'on va traiter. Si on choisit de traiter d'un sujet comme de Mirage et de faire un livre sur Mirage, on va évidemment parler aux équipes de Mirage puisqu'on va se poser la question de la continuité, de l'esprit canonique qui est ultra important pour nos fans, à savoir justement on fait du transmédia, pas du cross-média, on crée un univers étendu sur plusieurs médiums, mais c'est toujours le même univers. Il n'y a pas de livres ou de romans qui viendraient raconter une histoire complètement différente ou qui ne seraient pas en accord avec l'esprit de ce qui a été créé ou dit dans le jeu vidéo. De facto, on va parler avec les équipes narratives, avec les équipes de production, pour leur en parler, voir qu'est-ce qui serait la meilleure approche. Et tout dépend aussi du stade de développement auquel ils sont. Évidemment, s'ils sont en plein dans le développement de leur histoire, c'est très compliqué de se greffer à côté. A contrario, ce qu'on peut souvent faire, c'est raconter un préquel sur plusieurs personnages, raconter un spin-off sur des personnages sur lesquels le jeu n'a pas forcément le temps ou l'intérêt de venir parce que ça casserait le propos ou le rythme, mais ça peut être une histoire super intéressante à développer en parallèle ou à côté, voire des séquelles, des choses qui se passent après les jeux. Et donc ça fait l'objet de pas mal de réunions, de suivi avec les équipes. On leur envoie évidemment le contenu, les avancées, c'est-à-dire du premier draft en passant par les premiers écrits pour qu'ils comprennent le ton, qu'on soit en accord et qu'on dise pas des choses qui évidemment viendraient contredire ce qu'eux présentent dans leur œuvre. Et après, il y a l'autre aspect, celui dans lequel on développe quelque chose complètement à côté. Maintenant, on a envie de faire un roman sur l'ère victorienne aujourd'hui, alors qu'il n'y a aucun jeu ou aucune actualité dessus. On ne va pas demander la permission aux équipes. Ça fait partie de notre mandat de développer nos nouveaux univers. Donc là, on parle avec les équipes de marque quand il y en a pour les prévenir des settings qu'on va utiliser, des personnages qu'on ajoute, de manière à pouvoir les introduire après dans le lore, que ce soit de servir dans les jeux de personnages ou de protagonistes, ou d'y être mentionné au détour d'une conversation ou d'une référence.
Ouais, alors c'est hyper intéressant. Est-ce que vous pouvez un peu peut-être juste expliquer comment fonctionne l'organisation? Parce que moi, je vais un peu expliquer. Il y a différents studios, Ubisoft a différents studios à travers le monde. Certains studios peuvent s'occuper de faire un jeu en particulier, mais cependant, il y a quand même quelqu'un qui est au-dessus, qui s'occupe de la franchise, je suppose. Expliquez-nous un peu comment ça se dispatche entre peut-être la personne qui est responsable de toute la franchise Assassin's Creed et comment ça se passe après avec vous et puis les autres studios.
Oui, alors il y a une personne qui est effectivement en charge pour les grandes franchises. On a des personnes qui sont en charge de les gérer. Donc de notre côté, c'est Marc-Alexis Côté qui était anciennement qui a été directeur créatif sur la franchise sur plusieurs jeux, sur Assassin's Creed 3, sur Syndicate, producteur sur Assassin's Creed Odyssey et qui aujourd'hui a été promu et gère la franchise dans son entièreté. Et donc, gérer la franchise, ça veut dire gérer les jeux, donc les différents cycles de production, les jeux en parallèle, mais aussi tout ce qui se passe autour. Donc en fait, il a pour charge de nous aider, de nous supporter dans le développement de l'IP, que ce soit au travers des séries télé sur lesquelles on travaille, des films, des romans, etc. Et ça, c'est effectivement, ça tombe dans l'escarcelle de mon département, et on le fait en travail avec les différentes personnes qui, elles, sont responsables des marques. C'est le cas aussi hein, pour Far Cry, pour Rainbow Six, on a des personnes qui s'occupent de la franchise en entier, et donc tous les différents jeux ou tous les différents projets qui vont être produits sous l'ombre, Far Cry ou Assassin's Creed en l'occurrence, sont sous la responsabilité de Marc Alexis Côté. Donc qu'on ait un jeu en partenariat sur mobile, ou un partenariat avec Netflix pour produire un jeu, c'est encore une fois de son ressort, et c'est lui qui supervise tout ça.
Comment on garde une cohérence après 12 épisodes, un film, des BD, des romans, comment on fait pour garder tout ça cohérent quand on veut lancer de nouvelles choses ?
C'est pas évident, c'est beaucoup de travail. Y a une partie de ça qui relève effectivement de l'historique. J'ai la chance de travailler sur la franchise Assassin's Creed depuis bientôt 15 ans. Donc, fatalement, j'ai vécu de nombreux projets. Je sais quelles ont été les intentions à la création des projets. J'ai participé à ces projets-là. Donc, j'ai une connaissance assez étendue de la franchise Assassin's Creed, ce qui aide énormément. Mais après, il y a effectivement une énorme partie qui vient de la documentation, du travail avec les équipes, de la volonté de créer autre chose et de faire évoluer la franchise, de ne pas stagner. Donc du coup, ça nous amène à avoir pas mal de réunions entre nous sur les créatifs et les personnes qui gardent l'aspect narratif et cohésion dans la franchise. Et on s'autorise parfois soit à des petits retcons, soit à des éditions, soit à des revirements quand ça va dans l'intérêt et de la franchise et du projet. Ça peut être extrêmement compliqué d'être consistant en permanence sur tout. Vous parliez tout à l'heure de la franchise Star Wars, c'est un exemple typique qui a décidé de faire table rase à un moment donné d'une grande partie de son héritage pour passer à autre chose. Ça ne veut pas dire que l'héritage est caduque et que les anciens romans, livres ou films ont perdu tout leur intérêt narratif. C'est simplement qu'ils ne sont plus pris en compte pour l'écriture de l'avenir et du futur et de tout ce qui va se passer. Ça nous arrive par moment de faire des petits sacrifices ou des éditions et parfois d'expliquer avec plus ou moins d'élégance pourquoi certains éléments évoluent ou changent au sein de la franchise.
On va pas se le cacher, les œuvres licenciées respirent très souvent le coup marketing ou commercial prenant un peu les fans comme des vaches à lait. Comment on fait pour garder un côté créatif et original sans tomber dans la lourdeur que peut imposer un groupe ou une quinzaine d'années d'histoire de jeux vidéo, avec peut-être des réunions avec des gardiens du temple. Bref, comment on fait pour garder quelque chose d'un peu d'original, pour éviter que le fan se dise « bon, bah bof, finalement, c'est un coup marketing, quoi ».
La difficulté, en fait, là-dedans, elle est qu'on ne parle pas à un fan, mais à des millions de fans. Et que ces fans n'ont pas du tout les mêmes attentes. Vous allez avoir toute une série de fans qui, eux, ne respirent que par le titre avec lequel ils sont entrés dans la franchise et tombés amoureux de cette franchise, et qui pour eux est le socle de ce début de relation et de côté fan d'une œuvre. Et du coup, tout ce qui a tendance à dériver peut être perçu comme différent ou être refusé. Donc c'est extrêmement difficile de faire évoluer la franchise, et en même temps, c'est en faisant évoluer une et en changeant les paradigmes qu'on finit par toucher de plus en plus de monde et par rester frais et se renouveler. Il y a de nombreuses franchises qui, en fait, sont dans ce cas-là, hein, qui osent et qui font des choses. Star Wars en était aussi une autre. Et ça peut être fait avec plus ou moins succès. On peut parfois complètement passer à côté, et d'autres fois, au contraire, on va viser juste. Je trouve que ça en dit long sur l'ambition et le courage d'Ubisoft de changer aussi radicalement la formule à chaque épisode, et d'oser effectivement revirer le cap et proposer des choses très différentes. En ce qui concerne toute l'activité transmédiatique et narrative en général, je mets un point d'honneur depuis des années à travailler sur le matériau avant tout. C'est-à-dire que quand on travaille sur un roman, ou quand on travaille sur un graphic novel, ou qu'on travaille sur une série, j'ai envie que ce soit un bon roman avant d'être un roman Assassin's Creed. L'aspect, révérence à la marque et la façon dont ça s'inscrit dedans, c'est mon travail d'aider les auteurs et de les supporter à le faire. Mais quand on travaille sur une IP, dans beaucoup de cas, quand on a un auteur qui vient travailler avec nous, on peut se retrouver avec soit quelqu'un qui méconnaît totalement la franchise et propose quelque chose qui est complètement hors champ et c'est complexe, soit on peut se retrouver avec quelqu'un qui veut être plus royaliste que le roi et qui va être tellement intense dans la franchise qu'au final, il en oublie de raconter une histoire. Et au final, ce qui compte pour nous, ce sont les histoires, les protagonistes, la manière dont ils évoluent. Et la franchise, elle est assez riche pour se permettre, en jouant avec l'histoire avec un grand H, de raconter des centaines d'histoires différentes. On peut avoir une bande dessinée dont l'orientation est... transpire le nom de la rose parce qu'on est des fans d'Umberto Eco et qu'on avait envie de raconter quelque chose de plus lent et de plus posé et de plus réfléchi. Tout comme on peut avoir un comics beaucoup plus orienté action qui va rappeler Vinland Saga et puis les mangas autour de autour des Vikings. Au même titre, on peut avoir un manga qui aura des codes ou un manhwa qui va avoir des codes très différents. Notre manhwa qui se rapproche du wuxia et qui est vraiment de longs chapitres, qui va faire penser à tout le monde au classique du genre, hein, Hero, Tigre et Dragon. Et donc, on arrive à raconter des choses différentes et je pense que c'est ça la clé, c'est de raconter des histoires intéressantes avant tout et de pas prendre de facto le fan pour un imbécile en pensant qu'il va acheter tout ce qui se fait sous le motif qu'il y a un logo Assassin's Creed dessus. Et en faisant des propositions différentes, évidemment, on va avoir des gens que ça va pas intéresser qui aiment Assassin's Creed, mais qui sont pas fans de manga ou de manhwa, et qui vont pas accrocher à l'esthétisme, ou au contenu, ou à la forme. Mais c'est pas très grave. On n'attend pas de nos fans qui consomment tous les produits qu'on fait. On essaye d'en toucher un maximum en faisant des propositions qui nous plaisent à nous et qui nous permettent de raconter des belles histoires.
Aymar, moi j'ai une question. Ça veut dire, est-ce que vous, vous-même, Aymar, vous pouvez décider, par exemple, je sais pas, si un jour vous voulez travailler avec tel auteur, tel dessinateur, tel romancier, est-ce que vous pouvez prendre votre adresse mail et envoyer un mail directement, ou est-ce que vous faites ça un peu en équipe et vous mettez d'accord à plusieurs pour savoir avec qui on va travailler?
Alors selon le projet, hein, si ça va être par exemple effectivement de la BD ou du manga, évidemment qu'on va mettre les équipes publishing dans la loupe puisqu'on travaille avec eux. Ce sera charge à eux de signer les contrats et de s'occuper des aspects contractuels. En revanche, bien sûr qu'on est on a complètement la liberté, et c'est déjà arrivé, soit de leur côté ou du mien, d'être contacté ou de contacter un auteur ou un ami pour le faire travailler sur un projet parce qu'on pense que c'est la personne qu'il faut. On a quelqu'un dont on apprécie le travail et on a envie de travailler avec lui sur un projet particulier, on va pas hésiter à les appeler, à le mettre en relation, et après c'est un travail d'équipe et de suivi. On a vraiment, nous on s'occupe dans notre équipe transmédia réellement du contenu, du fond, et on a évidemment toute une partie d'équipe qui va gérer les aspects légaux, gestion de la franchise, de l'IP, droit d'auteur, etc. Parce qu'évidemment, c'est aussi quelque chose de très important dans le métier.
Vous avez lancé une maison d'édition pour publier des BD avant de laisser les éditions Glénat et notamment Robin Joly, qui est éditeur et qui est venu sur le podcast aussi, s'occuper de ces bandes dessinées. Pourquoi ce choix de ne plus internaliser donc les BD et de passer par un éditeur spécialisé justement?
Bah, ça, c'est vraiment une évolution, c'est-à-dire que le département transmédia n'existait pas encore. Que le HQ et notamment le business des équipes européennes a décidé de créer cette maison d'édition. Et sur le démarrage, la maison d'édition, effectivement, a utilisé les différentes IP et on n'avait pas encore formalisé l'Ubisoft d'aujourd'hui, la gestion de nos IP de la manière dont on le fait aujourd'hui. Et de facto, on s'était retrouvé avec toute une série, par exemple, de bandes dessinées qui malheureusement avaient été produites en interne, mais n'étaient pas canoniques. Les équipes de jeu n'avaient pas été consultées, le contenu ne correspondait pas à ce que l'on racontait. Donc, on a fait un maximum pour pouvoir intégrer ce qui faisait partie de l'œuvre, les personnages et autres dans l'univers étendu. Mais on n'est pas sur quelque chose de canonique, ce qui avait déçu plusieurs fans. Et en même temps, c'était très difficile de légitimer quand les auteurs écrivent dans leur coin sans nécessairement parler aux auteurs du jeu qui, eux, racontent autre chose. Et après, je pense qu'il y a parfois une envie et une volonté, en tout cas, de toucher à beaucoup de choses différentes et d'essayer de faire nous-mêmes. Ubisoft a ses propres départements pour gérer la production de séries, de films. Et parfois, ça fonctionne effectivement très bien et ça nous permet de garder un contrôle, de garder une autorité sur les différentes choses qu'on fait. D'autres fois, on se rajoute simplement un fardeau avec quelque chose qui est parfois beaucoup plus simple d'externaliser. Et c'est vrai que la bande dessinée était quelque chose de très unique, puisque on parle de bande dessinée franco-belge. Donc on avait un territoire et un marché très limité comparativement à ce que Ubisoft fait de manière générale. On a tendance à distribuer nos œuvres partout dans le monde. Et en plus, on avait déjà tout un fonctionnement avec le publishing en externe, puisqu'on travaillait avec des grandes maisons d'édition. pour la novélisation, pour les romans, pour les artbooks. Donc on avait vraiment en fait cette petite unicité, puis la question s'est posée de est-ce qu'on allait encore gonfler ces équipes et se spécialiser dans ce métier, embaucher plus de monde, croître et du coup s'attaquer aux romans et au reste, ou est-ce qu'au contraire on allait continuer sur le format standard de gestion de propriété intellectuelle qui est de nous trouver les bons partenaires pour faire le travail. On a fait le second choix et c'est pour ça qu'on s'est retourné assez facilement pour la BD franco-belge vers Glénat.
Le transmédia storytelling était très à la mode il y a une quinzaine d'années. On en parlait beaucoup. Moi, j'ai d'ailleurs fait un mémoire sur le sujet en 2015 à Paris 3 sur les transmédia storytelling et les jeux vidéo. Donc, j'avais analysé Half-Life 2, Bioshock et Dishonored. Et j'avais analysé un peu la production transmédiatique, notamment aussi la production des fans, hein, qui est une vraie réalité, qui est un peu mise de côté, mais qui a produit pas mal de choses. Et Marc, quelle évolution avez-vous vu sur 15 ans? Et est-ce que le fan est toujours aussi demandeur alors qu'on vit quand même une époque où il y a une espèce de surproduction globale, que ce soit dans les séries TV, les jeux vidéo? On vit un véritable âge d'or culturel. Est-ce que, comment on fait pour arriver à faire vivre ce transmédia malgré l'offre qui est pléthorique?
Alors c'est effectivement complexe. Si on regarde l'évolution sur une quinzaine d'années, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas du tout assisté à un ralentissement. Au contraire, si vous regardez ce qui s'est passé dans les jeux vidéo, vous allez avoir une kyrielle de studios qui ont lancé leur films, séries et autres, de The Last of Us en passant par Halo, Castlevania, The Witcher. Donc on a du live action, on a de l'animé avec Cyberpunk, on a de l'animé avec Arkane et League of Legends. C'est juste que ça n'arrête pas et je pense simplement que Hollywood est souvent à la recherche des grands mythes et du prochain gros filon. Et on sentait, on savait, on anticipait le fait que le jeu vidéo allait, à un moment ou à un autre, rentrer en ligne de mire des producteurs d'Hollywood, comme l'ont été les super-héros pendant très 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 longtemps. Aujourd'hui, on voit qu'on arrive un peu sur la fin du modèle du super-héros, qu'on a étiré. Donc la crainte, elle est effectivement la classique de la saturation du marché, du fait qu'on va se retrouver avec beaucoup beaucoup trop d'œuvres tirées de jeux vidéo qui finalement vont pas réussir à tout trouver leur public. Et je pense que là encore, à l'instar de ce qui s'est fait sur les super-héros et sur la gestion de franchise en général, tout l'intérêt va être de réussir à raconter des choses intéressantes, originales et uniques. Et je pense que quand on raconte des bonnes histoires, peu importe l'origine en fait du matériau source, on arrive à faire quelque chose de légitime. Maintenant, il y a le problème de l'adaptation et de ce que ça cause pour les fans. On a effectivement des fans qui sont extrêmement durs et qui veulent retrouver entièrement leur franchise telle qu'elle, et c'est à la fois difficile et pas forcément pertinent, et en même temps on se retrouve parfois avec des studios qui prennent les franchises un petit peu par-dessus la jambe et qui essayent de les adapter comme ils l'entendent, et les résultats peuvent être plus ou moins heureux. Donc je pense qu'on n'a pas encore une formule unique, fonctionnelle, qui permette de garantir à chaque fois des adaptations réussies. Mais ce qui est certain, c'est qu'on voit énormément maintenant d'adaptations qui viennent dans le sens jeux vidéo vers le cinéma et les séries télé, alors qu'il y a 15 ans, c'était l'inverse en fait. Le jeu vidéo était une extension qui permettait de promouvoir un film ou éventuellement de gagner un peu plus d'argent sur une IP en faisant de la gestion d'IP comme on vendrait du produit dérivé. Et le jeu vidéo ayant pris tellement de poids et de place par rapport à l'industrie cinématographique ou littéraire, on est en fait dans un shift et un changement de paradigme où le jeu vidéo n'est plus une extension, mais il devient le matériau source. C'est le gros changement qu'on a pu constater sur une quinzaine d'années, en fait.
Vous les avez cités tous les deux. Quel regard portez-vous sur le succès de la série animée Cyberpunk Edge Runners, qui a réussi à réconcilier les fans avec une franchise qui avait connu un lancement très compliqué lors de la sortie de Cyberpunk 2077? Et quel regard portez-vous sur Arkane, la série de League of Legends, entre guillemets, et qui a sur Netflix et qui avait réussi à ouvrir totalement l'univers de League of Legends, qui peut être un petit peu imbitable quand on n'y connaît rien aux jeux vidéo, à un grand public. On peut dire que je prends ces deux exemples parce que c'est ces deux exemples-là qui ont vraiment marqué un peu les gens. C'était sur Netflix à chaque fois. Quel regard vous portez sur ça?
Alors sur le modèle de Cyberpunk, je trouve que c'est une réussite à plusieurs égards. La première, c'est qu'ils sont allés effectivement vers un style manga animé, mais excessivement réussi. Ils ont bien réussi à adapter à l'écran leur ville, leur univers, et en plus ont eu l'intelligence de l'intégrer dans le jeu. C'est-à-dire que la série a eu des droits à des événements en jeu qui faisaient référence. Dans leur nouvelle extension, on continue d'y faire référence. Donc en fait, on a réussi à créer quelque chose de cohérent et de consistant avec un univers qu'on a créé, ce qui faisait que on a à la fois touché un nouveau public et en même temps, on a réussi à ramener les fans et à leur proposer quelque chose qui leur parlait à eux. Dans le modèle d'Arkane, on a quelque chose de très différent puisque Arkane a travaillé à la production de leur propre série. Ils ont mis énormément d'amour et d'énergie dessus, donc c'est pas un licensing out, hein, de manière classique où on confie sa licence à un externe. Ils ont gardé ils ont gardé le contrôle total sur le visuel, le rendu et la technique. Ils ont produit une œuvre incroyablement qualitative, c'est excellentissime. En revanche, sur l'aspect marketing et impact, on peut se poser la question, le nom League of Legends n'est pas énormément évoqué ou associé au jeu, et le genre de jeu est assez abrupt, très difficile à pénétrer pour un néophyte. Ils ont une communauté connue pour être très très difficile, et je ne suis pas persuadé que les chiffres d'Arkane en fait, ont bouleversé les stats et les datas de League of Legends. Donc je pense que c'est à la fois une belle réussite en termes visuels, rendus et expansion d'univers, mais à date, j'ai pas l'impression que ça s'est traduit concrètement et dans l'offre que propose Riot Games, c'est-à-dire qu'on attendait plusieurs jeux dans l'univers de League of Legends et on pensait qu'Arkane allait être la grande porte ouverte pour cela. On attend encore la manifestation de l'extension de ces univers, donc en ce sens, il y a un succès que je mitigerai entre la qualité de l'œuvre qui est absolument fantastique et l'impact réel sur la marque d'un point de vue business, là où une série comme The Witcher, qui a pu être décriée, qui a eu une chute en qualité quand même assez drastique très rapidement, la série The Witcher, au contraire, qui a fait un énorme buzz et qui a participé activement à redonner encore un souffle au jeu qui n'en avait pas nécessairement besoin, parce que c'était un succès énormissime, mais on a pu mesurer immédiatement qu'à chaque sortie de saison, on a un impact sur les ventes et les gens qui se retournent de nouveau vers le jeu ou qui y plongent simplement pour la première fois.
Il se nomme Callum Lynch. Nous avons remonté sa lignée sur 5 siècles, jusqu'au credo des assassins.
Callum, aux yeux des gens, pour autant que cela leur importe, vous n'existez plus.
C'est quoi cet endroit ?
Ceci est votre seconde chance.
Qu'est-ce que vous me voulez ?
Votre passé. Vous allez entrer dans l'Animus. Ce que vous allez voir, entendre et ressentir sont les souvenirs de votre ancêtre, qui est mort depuis 500 ans.
Attendez une minute !
Bienvenue dans l'Inquisition espagnole.
Vous avez connu l'aventure, vous aussi cinématographique, avec le film Assassin's Creed réalisé par Justin Kurzel, excellent réalisateur, qui avait réalisé Les Crimes de Snowton, un film pas très connu mais qui avait vraiment marqué les esprits. Comment vous, ça s'est passé, MR, cette collaboration en tant que professionnel, puisque je crois que vous avez un peu travaillé avec l'équipe du film de l'époque?
Ah oui, pour le coup, oui, Justin Kurzel qui avait aussi fait un excellent Macbeth, dans lequel, justement, il avait rencontré une partie du cast du film Assassin's Creed. Pour ma part, en fait, j'ai été, comme j'étais un ancien de la série et que je connaissais extrêmement bien le scriptwriting, le writing en général et les univers d'Assassin, j'ai servi de consultant, en fait, sur l'écriture des scripts pendant assez longtemps. Donc ça s'est manifesté par un peu plus d'une cinquantaine de scripts que j'ai révisés. On se rend pas compte de la quantité de scripts qu'on écrit en 6 mois dans un film, mais il y en a vraiment beaucoup. Et une fois qu'on a eu une green light sur le script final, je suis également allé rencontrer les équipes à Pinewood sur la création des costumes. J'ai passé du temps sur les sets de tournage avec les différents acteurs, pour discuter des rewrites, de l'interprétation, de la franchise, faire la promotion. Donc c'était quelque chose d'assez spécial parce que de base, quand on signe dans le jeu vidéo, on s'attend beaucoup plus à faire des salons de jeux vidéo que de se retrouver sur un tapis rouge avec des Michael Fassbender et puis des Jeremy Irons. Ça, c'était pas dans le contrat de base, on n'imaginait pas ce genre de choses, mais c'est une des réalités qui vient avec le jeu vidéo aujourd'hui. pour nous, ça a été une expérience effectivement assez intense en apprentissage, d'autant qu'on était très très impliqués dans l'écriture, mais une fois qu'on rentre dans, dans la réalisation, les studios ont réellement pris le contrôle et pris la main sur l'exécution du film, à savoir quelle allait être la version qui allait être présentée, non pas la director's cut, mais la version du studio, quels étaient les éléments et les scènes que eux désiraient couper ou élaguer. Et de facto, bah, on a une différence assez importante entre le script final sur lequel on s'était accordé et le résultat final à l'écran. On peut d'ailleurs pressentir les différences en lisant le roman adapté du script qui avait été écrit à l'époque par Christy Golden, qui est beaucoup plus proche du script original que du film, et on voit pas mal les évolutions qui ont eu lieu entre le moment où, sur le papier, on avait un film qu'on avait envie de réaliser, et les réalités de tourner un film, d'être sur des lieux réels avec de vrais acteurs, de devoir faire des cascades, de devoir avoir effectivement un montage par un studio qui a lourdement investi dans le film et qui est en contrôle. Donc ça a été un très très bon apprentissage. Le début de la création de Ubisoft à Los Angeles, donc notre studio qui gère les films, et qui depuis a pu repartir sur d'autres aventures, prendre en grade et proposer pas mal de choses très intéressantes.
Ouais, ça avait été un... Donc le film est sorti en 2016. Il y avait Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons. La première adaptation cinématographique du jeu avait tout pour s'imposer auprès du grand public et porter peut-être la franchise encore plus haut. Malheureusement, il y a eu un espèce de plafond de verre pour différentes raisons. Déjà, il faut le savoir, c'est rare que un jeu vidéo... une adaptation d'un jeu vidéo arrive à dépasser les 400-500 millions de dollars. C'est extrêmement rare au cinéma. Le film, je crois, avait rapporté à peu près 250 millions de dollars. Qu'est-ce qui a manqué, selon vous, pour que ça touche un plus large public? Le film en France a plutôt bien marché. Il y a eu 2 millions d'entrées, ce qui est plutôt un bon score pour le cinéma français. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a peut-être, qu'est-ce qu'il aurait fallu pour aller chercher peut-être quelques millions de gens supplémentaires?
Je pense que les premières cuts et la vision originale de notre script auraient pu aider à ça. C'était un script qui était plus long, qui était moins didactique, qui, pour faire simple, le film durait un peu plus de 2 heures sur la première mouture, alors qu'il est autour d'une heure et demie sur la version actuelle. Et il prenait beaucoup plus de temps à établir les personnages, notamment les personnages dans le passé. Donc en fait, on avait l'impact émotionnel était plus intéressant, et dans le montage lui-même, on sent que la version qui a été proposée a voulu faire des raccourcis pour proposer un film d'action et qu'on se rapprochait beaucoup plus des adaptations action de films comme Resident Evil que des films plus lents et plus longs comme ils l'auraient mérité. Et les studios ont voulu se garantir que les spectateurs comprendraient tout ce qui se passerait, alors que, de prime abord, sur l'écriture, on n'avait aucun problème à ce que certains sujets restent abscons ou ne soient pas compris par tout le monde. C'était pas un problème pour nous. La version qu'on imaginait aurait été plus proche, dans l'introduction de la franchise, de ce qu'un Star Wars pouvait faire, à toute proportion regardée, évidemment, mais on parle de l'épisode 4, dans le sens narratif où, quand on est introduit à l'univers de Star Wars pour la toute première fois avec l'épisode 4, on le découvre à travers les yeux de Luke Skywalker, qui, dans le premier épisode, n'est qu'un paysan qui se fait recueillir et sur lequel tout tombe. On découvre qu'il rêve de devenir astropilote, qu'il parle des rebelles, on parle de cette guerre qui a lieu. Les droïdes sont un MacGuffin qui vont nous amener de place en place. On va découvrir Ben Kenobi, la Force, et tout est introduit tout doucement, au fur et à mesure, par les yeux de ce protagoniste. Et pour nous, l'objectif était de réussir à faire exactement la même chose à travers les yeux d'Aguilar et de Cal. Et au final, on a un montage qui est beaucoup plus direct sur les assassins, les templiers, les méchants, les gentils, voilà ce qui se passe. Et le script original était beaucoup plus complexe, mais je pense que ça gagnait en intérêt et qu'on pouvait vivre avec le fait que tout le monde ne comprenne pas tout si au final on s'attache à des personnages et on a une belle histoire dont l'arc devait faire comprendre au personnage de Callum qu'il y avait des choses plus importantes que sa vie ou que la valeur qu'il accordait à sa vie et qu'il avait une place à jouer dans l'histoire. Et c'était plus simple, mais émotionnellement plus chargé, et c'était l'objectif. On n'avait pas envie, en un épisode de 2 heures, de raconter l'entièreté d'une franchise qui s'étale sur plus de 15 ans, avec des jeux qui peuvent durer jusqu'à 30, 40, 50, 80 heures. C'est évidemment impossible de compresser tous ces éléments d'histoire, il faut couper vraiment très très fort dans les éléments. Et je pense que les éléments qu'on a gardés ou mis en avant n'étaient pas nécessairement les plus pertinents pour accrocher un large public, en fait.
Et est-ce que finalement, quand j'écoute ce retour d'expérience, je me dis que ça aurait été aussi intéressant d'avoir vous-même votre propre studio et d'avoir tout clé en main, en fait, pour jusqu'au bout maîtriser la conception de A à Z. Mais est-ce que peut-être après, ce qui est problématique, c'est l'investissement? Là, on parle de centaines de millions de dollars. Et puis après, tout le processus de diffusion, distribution, enfin... Bref, être un studio, c'est aussi un métier, c'est pour ça qu'on fait appel à eux. Mais quand même, est-ce que vous n'êtes pas dit finalement, bah, pourquoi pas créer nous-mêmes notre propre mini-studio comme un Disney ou comme ces grandes plateformes?
La frustration, elle est là. Vous demanderez à n'importe quel créatif, et évidemment, on préférerait avoir nos propres studios sur lesquels on a plus de contrôle sur nos œuvres, mais ça demande non seulement un investissement massif, et au-delà de l'investissement, ça demande des compétences qu'on n'a pas la prétention d'avoir, en fait. Et c'est un peu ce qui s'était passé avec la bande dessinée également. C'est que c'est pas simplement raconter une histoire et écrire un script, c'est avoir la capacité à lever des talents, à réserver des espaces de tournage dans des grands studios comme Pinewood et autres, à être capable de créer, de concentrer des équipes, et pas seulement, on parle pas seulement là d'acteurs, on parle effectivement d'avoir tout un staff de directeurs artistiques, de créateurs de décors, de stuntmen, et d'avoir ces références sous la main. Donc ça demande réellement un effort d'implantation qui est assez important, et du coup, pour tendre vers ça, on essaye déjà de se situer au milieu, c'est-à-dire d'investir plus dans la création des films. Ça a été le cas sur Werewolf Within, que Ubisoft avait sorti, ou sur des séries, ou des séries qu'on coproduit comme Mythic Quest avec Apple, dans lequel on prend de plus en plus de connaissances, de talents, de contacts, pour faciliter le travail sur les prochaines séries, films et autres dans lesquels on est de plus en plus impliqué. Et on pense également que le format série en attendant, sans exclure complètement du tout hein, le format film, mais le format série nous donne la chance d'être plus impliqué dans les writers' room et de travailler beaucoup plus en amont avec des showrunners, et de garder un contrôle plus important sur une longueur par rapport à un film qui, une fois qu'il est fini, il faut aller vite, on accélère les étapes, on a énormément de choses à faire, et du coup, c'est très très difficile d'infléchir une trajectoire, alors que dans le format série, on a quand même beaucoup plus de temps pour se le permettre. Donc, on gagne en compétences, mais évidemment, il y a une frustration, et on aimerait tous avoir, je pense, un studio de ciné à porter pour être capable de créer les œuvres telles qu'on les veut, avec les personnes avec lesquelles on a envie. Mais on se rend compte que la réalité de gérer les agendas, les talents, la distribution, vous aviez raison, hein, les réseaux de distribution, c'est quelque chose d'énormissime à gérer, entre les contacts à avoir avec les salles, la manière de distribuer le film. Le film Assassin a eu la chance d'être un des films hollywoodiens distribués en Chine, mais il n'y en a pas énormément par an. Ça passe par l'appui de gros producteurs. On avait la chance d'avoir Frank Marshall qui était producteur sur le film. Et c'est vrai que c'est quelque chose de complexe, parce que ça peut jouer sur le succès ou l'échec d'un film, notamment quand on parle de blockbuster avec ces budgets-là. Ouais.
D'ailleurs, pour venir à l'essence même d'Assassin's Creed, qui est une franchise, et vous l'avez bien dit, qui mêle... science-fantasy finalement, parce qu'il y a un aspect science-fictif avec le retour dans le temps via une machine, via l'Animus qui a un côté vraiment SF, et puis dans les derniers épisodes où qu'on arrive dans l'Antiquité et on fait appel aux dieux ou aux mythologies de cette Antiquité-là, on se retrouve dans un mélange de science-fantasy. À quel point cet ADN-là merveilleux, on va dire, permet justement ou facilite la création de contenu transmédiatique?
Alors, l'aspect important ici pour nous, il est que on est face à un mélange des genres quand on parle de motivation et de raison. Je parlais tout à l'heure de permettre à la franchise d'évoluer. Ça en fait partie. C'est-à-dire que cet aspect mythologique, mythique qui est retranscrit dans la série permet évidemment des éléments de gameplay et donc de jeux vidéo, de jeux intéressants parce qu'ils sortent de l'ordinaire. Quand on est constamment dans de la série historique, on se retrouve systématiquement à combattre des humains, des hommes, des femmes, et le type d'adversaire à proposer peut devenir lassant sur le long terme pour un joueur, alors qu'avec cet aspect-là, on le garde sur la pointe des pieds. Si vous ne savez pas si le Minotaure, c'était simplement quelqu'un de très grand qui se baladait avec une peau sur lui, ou si c'est réellement une créature fantastique, au moment où vous allez sur l'île au Minotaure, où vous vous retrouvez dans le labyrinthe, il y a une pression qui se crée, et donc il y a une angoisse, une attente, qui est intéressante d'un point de vue jeu vidéo. D'un point de vue gestion de marque, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il faut expliquer les frontières de ce qu'est la franchise. Et la franchise, à son cœur, c'est une franchise historique. C'est pas une franchise fantastique, et tout ce qui arrive dans nos univers doit pouvoir être justifié par la science. par essence, on a une ancienne civilisation qui était très avancée technologiquement, et la manière dont on se joue des mythes, des légendes et des religions, c'est de dire que l'interprétation qu'en ont fait les hommes de l'époque ont transformé une créature mécanique, un golem, en une créature fantastique imaginée. Mais quand on est confronté à cette réalité, on doit, nous, en tant que spectateurs de 2023, être capable de réaliser qu'il s'agit de technologie et qu'on n'est pas dans un univers fantastique du tout. Il n'y a pas de magie dans nos univers. Maintenant, aux yeux d'un néophyte, hein, la technologie paraîtra pour de la magie. La manière dont on choisit de le doser, c'est en général d'essayer de maintenir les éléments fantastiques à minima pour s'en servir comme des deus ex machina au besoin ou des éléments permettant de mettre un coup de pied dans le récit et partir sur une autre direction. Mais l'essence même des récits, elle est avant tout historique et dans les zones d'ombre, des assassinats, des meurtres et des disparitions mystérieuses dans lesquelles on choisit d'implanter et de faire s'affronter, comme vous l'aviez dit, les deux factions que sont les assassins et les templiers. Et vous allez trouver de nombreux ouvrages en transmédia dans lesquels il y a quasi aucun, voire aucun aspect fantastique traité du tout dans tout l'ouvrage, ou alors qu'ils le seront à certains moments clés pour faire basculer la dramaturgie et faire avancer le récit, mais on ne veut pas que ces éléments soient centraux à l'intrigue, et on ne veut plus les utiliser comme une facilité scénaristique sortie du chapeau à un moment donné pour systématiquement tout résoudre, mais au final ne donner aucune explication sur rien, parce qu'on génère sur le long terme plus de frustration qu'autre chose.
Je crois savoir que vous êtes en train de travailler avec Netflix pour un dessin animé, Assassin's Creed. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus, dans la limite du raisonnable et du fameux NDA que vous avez dû signer pour éviter
de nombreux NDA. Alors, sur la série Netflix animée, on n'a pas encore grand-chose à communiquer pour le moment, mais le prochain gros projet qui s'en vient avec Netflix sur Assassin's Creed, c'est un projet de série live-action. Donc ça, c'est garanti, c'est une série live-action sur laquelle on est en train de travailler. Je ne vous cacherai pas qu'avec la grève des scénaristes et la grève de SAG-AFTRA avec laquelle on est tous solidaires, pour l'instant, la situation a beaucoup ralenti. On commence tout doucement à reprendre de l'air côté scénario déjà, pour pouvoir être capable d'avancer, mais on prépare effectivement une série et on est entouré par une grosse partie du staff qui avait déjà travaillé sur l'adaptation de la série The Witcher. Puis la collaboration à date avec Netflix est vraiment excellente. Elle est très positive, on passe beaucoup de temps à exposer nos envies, ce qu'est la marque, et Netflix est extrêmement réceptif et a vraiment envie de respecter la franchise et les fans. Donc c'est un projet qui est super excitant, mais qu'on ne va pas voir tout de suite.
Comment vous dispatchez, vous, votre temps, Aymar, entre donc les projets type Netflix, entre les bandes dessinées, entre les romans, comment vous jonglez? Est-ce que vous avez un œil sur tout? Est-ce que vous avez des gens autour de vous qui vous facilitent un petit peu le travail pour avoir une vie d'ensemble un peu plus décisionnelle? Comment ça se passe à ce niveau-là?
Alors au départ, c'était effectivement moi qui avais les mains dans le cambouis sur tous les projets. Depuis, c'est absolument impossible, puisque je suis passé de m'occuper de la marque Assassin's Creed à m'occuper de la majorité des grandes marques Ubisoft, donc Rainbow Six, Far Cry, Watch Dogs, et c'est impossible pour moi de littéralement être sur tout. Donc sur Assassin, je m'occupe des projets principaux, je suis sur la série Netflix, j'étais sur Dynasty, le manoir en Chine. Et pour la plupart des autres projets, en fait, j'ai une équipe et un staff complet qui s'occupe de l'intégralité des choses, c'est-à-dire des romans, des mangas, des bandes dessinées. Et moi, je suis simplement impliqué sur le haut niveau au départ, c'est-à-dire se mettre d'accord sur quelles vont être les histoires, quel va être le contenu, mais je ne suis pas du tout dans l'opérationnel ou alors au besoin quand ça coince ou qu'il y a quelque chose sur lequel on n'est pas sûr. Mais j'ai une équipe qui connaît parfaitement bien la marque, les marques sur lesquelles on travaille. Et autrement, ce serait absolument impossible de suivre la quantité de travail qu'on a, parce que les gens ne se rendent peut-être pas compte, mais rien qu'un roman, on est sur du 300-320 pages, ça fait un paquet de manuscrits et de relectures et d'éditions différents. Quand on en sort deux à l'année, en plus d'avoir des artbooks, des bouquins anniversaires sur la franchise, des mangas qu'on reçoit au chapitre, un webtoon actuellement en activité qui marche très très fort aussi, sur lequel on reçoit aussi les chapitres en live, le format audio dont on s'occupe sur les différentes plateformes, donc tout ce qui va être non seulement audiobook, mais audiobook plus plus avec plus ou moins d'interactivité, mais aussi tout ce que vous allez retrouver comme podcast. Ça fait une quantité de travail assez phénoménale, donc c'est clairement impossible à traiter tout seul, c'est un gros travail d'équipe. En revanche, savoir avec qui on travaille, pour quelles raisons, sur quel format, quel type d'histoire on raconte, oui, ça c'est clairement des choses sur lesquelles je suis toujours très impliqué.
Pour vous, sur quand vous regardez un peu tout ce qui a été fait d'un point de vue transmédia sur Ubisoft et peut-être sur Assassin's Creed, quel a été le projet le plus abouti selon vous? Quel a été là où vous avez vu abouti créativement et aussi abouti dans sa réception par les fans?
Alors en exemple récent, j'ai vraiment Assassin's Creed Dynasty. Donc, qui est le manhwa qui a été fait au départ en Chine sur des plateformes digitales, puis adapté en format physique, print et autres. Il a à la fois été très bien reçu par les fans et les critiques du point de vue d'un contenu. Et en termes d'audience, en Chine, il a commencé par être diffusé sous format digital, très lisible sur les téléphones portables et autres. Et on l'a découpé de mémoire en 36 chapitres et on a dépassé les 2 milliards de visionnements. Donc on est sur quelque chose un succès assez énorme et j'en suis très satisfait parce que on a pu travailler avec des auteurs qui partagent pas notre culture, ce qu'on veut en général mettre de l'avant, c'est-à-dire que je me voyais pas me lancer dans un manhwa sur une partie de l'histoire chinoise en ignorant complètement les auteurs et les historiens locaux. Et ça a été un plaisir de travailler avec des gens qui ont su saisir la franchise et avec qui on a pu, ensemble, accoucher d'un projet qui était le meilleur de nos mondes, qui était vraiment une pure adaptation de ce que pouvait être un assassin à la sauce Wuxia. Et je trouve que ça fonctionne merveilleusement bien. On a eu énormément d'échanges, de retours et un travail collaboratif absolument incroyable. Et le résultat s'en est fait sentir. Donc en fait, pour moi, c'est littéralement les meilleurs projets et ceux sur lesquels je prends le plus de plaisir parce qu'ils sont légitimes aux yeux de nos fans. Le contenu met en avant des éléments historiques qu'on a envie de mettre en avant parce que c'est notre moto, hein. Avant tout, on travaille par le plaisir et par l'amour de l'histoire. Et quand on arrive à y associer la franchise et à raconter quelque chose d'original, de nouveau, et dont le contenu fait du sens, c'est là qu'on est les plus heureux. Donc ça, c'est vraiment un des projets qui m'a le plus fait plaisir. J'ai aussi pris beaucoup de plaisir sur le bouquin anniversaire des 15 ans d'Assassin's Creed, qui d'ailleurs est arrivé en français. Je pense que c'est aussi Glénat qui s'en occupe en France ou Hachette. Mais c'est un bouquin à l'origine qu'on a créé avec Dark Horse aux États-Unis, donc pour sa version originale en anglais. Et j'ai pris beaucoup de plaisir parce que Ubisoft nous a vraiment donné carte blanche et on a pu aller rassembler des entretiens avec les membres importants qui ont travaillé sur la franchise ces 15 dernières années. Et on trouve énormément de personnes qui, aujourd'hui, ne sont plus nécessairement à Ubisoft, mais qui ont fait, qui ont contribué à rendre la franchise aussi populaire aujourd'hui. Et ça a été assez génial de retrouver ces moments, ces tranches de vie, de les croiser pour raconter comment est Assassin aujourd'hui et comment ce succès est arrivé, avec moultes anecdotes de développement, histoire absolument improbable, beaucoup de contenu visuel, et évidemment, le transmédia en fait partie. Donc c'était un vrai plaisir d'expliquer un peu, d'ouvrir de pousser un peu le rideau et de laisser les gens voir comment est-ce que la franchise était gérée et s'était créée de l'intérieur. Donc je trouve ça un projet transmédiatique qui m'a beaucoup plu, parce qu'on perce le quatrième mur et on se met à nu, et c'était un exercice de style vraiment intéressant.
Et quelle est pour vous la franchise la plus intéressante actuellement en termes de transmédia? Est-ce que vous avez vu quelque chose qui vous a marqué, vous vous êtes dit waouh, c'est ce qu'il faut faire, ou il faut tendre vers ça? Est-ce qu'il y a quelque chose que récemment qui vous a marqué, qui vous a plu?
Alors les univers qui nous parlent et les références, et c'est là que c'est complexe, parce que très souvent, quand on a envie de pouvoir faire des choses géniales, il faut des moyens. Et pour avoir des moyens, il faut viser les séries qui ont du succès. Donc, on a évidemment les gros univers en tête, hein. Les Pokémon de ce monde, les univers Marvel, les univers Disney, les univers Star Wars. Vous remarquerez que 3 appartiennent à la même entité. Donc c'est un peu les gros mastodontes avec DC Comics et autres qui ont tendance à prendre quasiment tout l'espace médiatique en termes de transmédia. Mais c'est pas nécessairement ceux sur lesquels, d'un point de vue narratif et consistance, on est le plus attiré, où on trouve qu'il y a le plus de pertinence. J'aurais du mal à en trouver une qui m'a marqué, c'est plutôt individuellement sur chaque médium que je trouve des choses très très intéressantes. Là, je suis assez curieux, j'ai du retard à rattraper sur certaines des adaptations Netflix, notamment l'arrivée de Onimusha en animation, dont je suis assez curieux. Mais autrement, c'est plus des exemples qui sont en fait tellement typiques et qui sont là depuis et présents depuis tellement longtemps qu'on réalise même plus en fait la manière dont ils fonctionnent et la manière dont ils interagissent. Mais effectivement, j'aime beaucoup le fait que Star Wars essaye beaucoup de choses très différentes avec plus ou moins de succès. En ce moment, c'est souvent beaucoup moins de succès. Mais je trouve qu'il y a des exemples au milieu de tout ce qu'ils essaient qui sont super intéressants parce qu'ils cassent le clivage traditionnel des Star Wars d'origine, à savoir du space opéra. On n'est plus dans de l'histoire et de la tragédie familiale, on est vraiment dans l'exploitation de l'univers. Du bounty hunter qui va beaucoup plus s'inspirer des westerns ou des vieux mangas de type Lone Wolf Cup ou des choses comme ça. Et on va passer sur des séries très politiques, et puis après des séries très classiques sur les Jedi et autres, mais c'est assez intéressant de les voir parfois s'éloigner du cœur de ce qu'était Star Wars et rendre l'univers intéressant au demeurant.
Et est-ce que le film Barbie vous a impressionné car impossible de passer hein, derrière le plus gros succès de l'année 2023. Extrêmement intéressant aussi, c'est tout ce qui s'est dit autour de Barbie et tous les propos autour de Barbie. Est-ce que vous, en tant que spécialiste du transmédia, vous avez été impressionné par ce qu'a réussi ce film, alors qu'on parle quand même pas d'un jeu vidéo où il y a 12 épisodes, mais on parle quand même juste d'une simple entre guillemets poupée Barbie qui existe depuis des décennies et auquel toutes les petites filles connaissent. Mais est-ce que vous vous êtes dit quand même ah, waouh, les mecs, chapeau, quoi.
Ah ben, on a été impressionné par le succès. Et par ça, je veux dire, par la démesure du succès. On pensait que le film allait être un succès de base parce qu'on voyait que le propos était drôle, coloré, impertinent, qu'il ne se prenait pas complètement au sérieux et qu'il y avait quelque chose de léger et qui correspondait bien à l'époque et qui allait fonctionner. Mais dans l'absolu, je suis assez vieux pour me rappeler des films He-Man, donc Les Maîtres de l'Univers, les deux tentatives de films G.I. Joe. Il y a eu de nombreuses tentatives d'adaptation chez Hasbro, dont certains ont été des succès hein, d'un point de vue commercial, blockbuster, etc. Jamais dans cette proportion, on est entièrement d'accord. Et effectivement, on a tout de suite entendu des tonnes de rumeurs derrière sur « Oh là là, ils vont adapter toutes leurs séries et autres ». C'est fort probable qu'ils l'essayent, hein, on n'a pas de souci là-dessus. Mais je me rappelle aussi de la Turtle Mania et des Tortues Ninja, la manière dont un comics complètement indépendant, en noir et blanc, underground, dans lequel le grand méchant Shredder mourait dès le premier comics, s'est retrouvé complètement transformé en série animée pour pouvoir vendre du jouet, puis est devenu des films, dont le premier est assez culte encore aujourd'hui. Donc c'est pas la première fois, c'est juste historique, c'est cyclique, et ça me surprendra pas de voir Hollywood attiré par le succès, essayer d'en faire des émules, mais réussir à faire une telle formule, c'est pas évident. C'est vraiment pas facile, parce que, effectivement, le parti pris était extrêmement drôle, ils ont fait quelque chose d'intelligent, ils ont fait quelque chose de brillant, qui demandait sincèrement du courage, et je suis ravi de leur succès, et j'attends effectivement de voir la suite, mais je suis pas persuadé qu'on voit une déferlante de films de jouets dans les 2-3 prochaines années. Je pense que nos amis les dinosaures et les gros blockbusters classiques ont encore de beaux jours devant eux.
Ce sera le mot de la fin. Un grand merci Emar Ezeizer d'être venu avec nous. Ça fait toujours plaisir. On se connaît depuis un petit moment, donc ça faisait un moment qu'on parlait de faire ce podcast-là ensemble. Et j'attendais la sortie d'un Assassin's Creed pour justement parler et transmédier avec vous. Et c'est toujours passionnant. On peut vous suivre sur Twitter, donc Emar Azazia. Vous faites des analyses très intéressantes, hein, souvent de l'industrie vidéoludique, à travers vos tweets, et c'est toujours un plaisir de pouvoir vous lire et lire vos analyses qui sont toujours intéressantes autour de l'industrie du jeu vidéo et aussi des dessous des jeux vidéo, puisque quand même le grand public connaît assez peu finalement ce monde-là. Vous reviendrez nous parler, Emar ?
Avec grand plaisir, à la moindre opportunité. On continuera de sortir plein de jeux Assassin's Creed pour se donner des raisons de faire ça.
Ça marche, merci à vous et à bientôt.
Merci.